Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
La transition énergétique et écologique des entreprises, oui, mais comment ? La parole est aux dirigeants. Tour d'horizon des possibilités à la rencontre de ceux qui la font et la vivent.
Ça, c'est l'enjeu. Donc, pour ça, on a poussé l'éco-conception. Faire des produits performants tout en baissant son impact environnemental, en améliorant justement son bilan environnemental.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Associer performance et engagement écologique des enjeux antinomiques pour les entreprises ? L'entreprise CETI, leader français sur le marché de la porte d'entrée, nous prouve le contraire en s'engageant dans la transition écologique de l'habitat. Avec ses 1300 collaborateurs et ses 8 sites de fabrication, CETI est une société spécialisée dans l'enveloppe de l'habitat et la rénovation énergétique qui montre son implication dans la TEE, notamment par la création d'une filiale photovoltaïque et le désir de développer en France une industrie responsable. Parce qu'en proposant une offre de proximité et responsable, on peut changer l'habitat de demain. C'est en tout cas l'avis de François Guérin, le directeur général de CETI. Bonjour François Guérin.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, très bien.
Bien écoutez François, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On va débuter par faire un petit peu votre connaissance, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en quelques mots ?
Oui, alors mon parcours personnel, c'est d'abord 20 ans dans l'industrie automobile et puis une reconversion vers l'habitat. L'industrie, notamment de la menuiserie d'abord, et puis on a agrandi l'entreprise CETI de la porte vers la fenêtre et maintenant aussi vers les systèmes photovoltaïques, la ventilation solaire et la rénovation énergétique de l'habitat. Donc c'est un parcours industriel fait de 20 ans d'industrie automobile et bientôt 12 ans dans l'habitat.
D'accord. Et vous vous y plaisez ?
Oui, c'est un secteur qui est passionnant parce que on y vit au quotidien en fait dans l'habitat.
D'accord.
Et je trouve que là, il y a un champ d'innovation très important pour les années à venir, vu que l'habitat est un des secteurs les plus gros consommateurs d'énergie. Donc, les enjeux de transition énergétique et de transition donc écologique sont très importants.
Et justement, ces grands enjeux, on va en parler, c'est notre sujet. De votre côté, dans votre secteur, quels sont ces grands enjeux, François ?
Alors, on a d'abord, bien sûr, quand on parle de rénovation énergétique, on pense performance énergétique. Donc, d'abord, pour nous, c'est faire en sorte que tous nos produits contribuent à l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat. Mmh. Mais l'enjeu, c'est d'arriver à cet objectif sans faire des produits qui soient aussi très carbonés et donc avec un impact en termes de fabrication ou de recyclabilité qui soit négatif.
Oui.
Ça, c'est l'enjeu. Donc, pour ça, on a poussé l'éco-conception. Faire des produits performants tout en baissant son impact environnemental, en améliorant justement son bilan environnemental.
Et alors, est-ce que vous avez dû changer complètement votre façon de faire, votre façon de fonctionner, votre façon de fabriquer, François ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment se matérialisent concrètement ces changements pour votre entreprise ?
Il y a un mélange de ce que je dirais d'innovation, soit de rupture, soit d'innovation incrémentale. Et il y a des produits qu'on a fait complètement changer. Puis il y a d'autres produits, on y va par...
Par palier, ouais.
Par palier. Donc, lorsqu'on a fait nos premiers grands programmes d'éco-conception il y a une dizaine d'années, on a revu par exemple complètement la conception de nos produits porte-bois pour passer de bois massif à une structure en lamellé collé, ce qui a complètement changé le process. On a même intégré ces technologies-là. Et par ce fait, on a fait un produit plus performant sur le plan thermique, plus performant sur la durabilité, et moins consommateur de bois cher ou de bois exotique. Et tout ça, on s'est mis cette contrainte aussi à isoprix, voire moins cher. Parce que la performance énergétique, on la fera pas aussi en faisant des produits éco-conçus, mais beaucoup plus cher. Il faut penser performance énergétique et rénovation énergétique accessible à tous.
Et ça doit vous demander un gros travail de recherche avant d'arriver à cette finalité-là.
Oui, alors la démarche éco-conception, quand on a démarré ça il y a une dizaine d'années, on avait mis 2 à 3 ingénieurs dédiés justement à la reconception des gammes, de telle sorte que sur chaque gamme, on avait fait l'analyse complète du cycle de vie pour mesurer tous les impacts et de faire en sorte que toutes les nouvelles conceptions, on faisait descendre ces impacts. Donc, c'est un gros investissement au départ pour amorcer la démarche et pour faire en sorte que tous nos produits soient mesurables en termes d'impact. Parce que si on mesure pas, on sait pas où on va, quoi. On peut fonctionner par intuition, mais si on veut faire une vraie démarche scientifique, il faut passer par ces étapes-là. Donc, investissement de départ important en recherche, en méthode scientifique. Et puis, une fois que ces méthodes sont intégrées, ben, on passe aussi dans une démarche après plus incrémentale, où chaque fois qu'on reconçoit des choses, ben, on va essayer de prendre un matériau biosourcé à la place d'un autre matériau. Je pense notamment aux isolants qu'on peut mettre à l'intérieur des portes.
Oui.
Ben, trouver des isolants biosourcés au lieu des isolants issus de l'industrie chimique. Et comme ça, progressivement, on améliore l'impact produit.
Et à quel moment vous avez eu cette prise de conscience, en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre toutes ces démarches, tous ces changements?
L'entreprise, elle a dans son ADN la notion de responsabilité. Nous sommes responsables de nos impacts sur la société. Et que ça soit sur le plan social, environnemental ou sociétal, la contribution au territoire. Mm-hmm. Et ça, c'est concrétisé dans une démarche RSE ancienne qui a irrigué toute l'entreprise. Et on a toujours fonctionné avec cette façon de penser systémique que la performance économique était indissociable de cette approche RSE et que l'une et l'autre se nourrissent. On est convaincu que les entreprises les plus performantes et surtout les plus résilientes sont celles qui vont intégrer ces enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux.
Et alors justement, on parlait d'investissement avec ces ingénieurs que vous avez dû recruter. Donc, il y a quand même un coût important dans ces démarches sur le plan humain, mais j'imagine aussi sur les matériaux. Est-ce que vous avez fait un calcul pour savoir si vous allez vous y retrouver rapidement ou ça va prendre quand même du temps?
Il y a plusieurs niveaux de réponse à ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a des solutions où on sait avoir des retours sur investissement et des succès rapides. Et puis, il y a d'autres programmes où là, effectivement, ce sont des recherches beaucoup plus longues et qui nous permettent d'envisager des retours sur investissement plutôt sur des périodes de 5 ans. Exemple, très récemment, nous avons sorti une porte bois qui s'appelle Bois Absolu, qui bénéficie d'un programme de recherche de plusieurs années, où on, pour la première fois, on va garantir des porte-bois 10 ans sans entretien, chose qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. On a sorti des portes aluminium avec des revêtements céramiques.
Et là, ces nouveautés, elles sont sorties quand?
Bon, elles sont sorties il y a à peu près 6 mois.
Ah oui, effectivement, c'est tout frais. Donc, une belle innovation.
Ouais.
Et est-ce que vous avez déjà des retours de vos clients aujourd'hui par rapport à ces nouveautés? Est-ce qu'on peut parler de bénéfices?
Oui, ça alimente en permanence la relation de confiance qu'on peut entretenir avec nos clients, et notamment le fait qu'ils s'associent à une marque responsable. Et on les entraîne en fait dans cette dynamique-là. Il y a des choses qui au début sont les clients, ils sont un peu, je dirais, un peu indifférents ou pas très à l'écoute. Puis petit à petit, je dirais, les choses se mettent en place et ils deviennent eux-mêmes vraiment porteurs aussi de ces valeurs. Donc je crois que c'est un travail de fond et de pédagogie qu'on a mené.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas un plus gros travail de communication plutôt que de changement au sein de l'entreprise pour justement que tout le monde puisse adhérer à ces valeurs et prenne le pli?
C'est à la fois un changement personnel qu'il faut faire, c'est-à-dire l'entreprise, être imprégné de ses valeurs et de ces enjeux-là. Et il y a aussi un travail de pédagogie. Alors effectivement, la communication est importante, mais la communication, elle est écoutée et crédible si elle s'est appuyée sur des choses concrètes.
Mm-hmm.
Nous, on ne croit pas à la communication qui annonce des choses qui n'existent pas encore.
Oui, ne pas faire de grandes promesses comme ça sans avoir de bagages derrière.
Attention au greenwashing, social washing et tout ce qu'on peut dire et qui sont... On n'est pas là pour être juste aligné sur la norme. On est là pour faire mieux que la norme. Donc voilà un peu de la communication de nous aider à accompagner une démarche très proactive, mais concrète, réelle.
Oui, écoutez, très bien. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce qu'on peut faire un bilan de cette transition?
Oui, on continue sur ce chemin en allant toujours un peu plus loin. Donc pour moi, il y a... un retour sur investissement qui se fait à travers le fait que nos produits s'inscrivent totalement et en avance sur les enjeux de la nouvelle réglementation du bâtiment. Donc, certains doivent adapter leurs produits. Nos produits aujourd'hui sont alignés sur ces enjeux de performance énergétique et de bas carbone que la réglementation 2020 met en place. On fait, par exemple, sur les panneaux solaires avec la réindustrialisation du photovoltaïque en France basée sur du photovoltaïque bas carbone. On n'a pas attendu que tout ça se mette en place pour le faire. C'est des choses qu'on a initiées et qui seront prêtes avant l'arrivée de la réglementation. Donc, on peut capter aussi plus rapidement des opportunités d'activité par le fait qu'on anticipe les mutations à venir.
Très bien, merci beaucoup. Effectivement, la transition, c'est important. C'est un sujet que l'on traite dans ces podcasts. C'est pour ça que nous les avons organisés. Merci infiniment, François Guérin, d'être venu témoigner de votre expérience. J'espère qu'il y en aura d'autres comme vous qui suivront votre chemin. N'hésitez pas, celles et ceux qui nous écoutent, à le partager, ce podcast. Et surtout, engagez-vous. Je le répète, la transition énergétique et écologique, c'est possible aussi dans votre entreprise. Je vous dis à très bientôt. Merci François, au revoir.
Merci, au revoir.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.